c'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des chauves-souris et plus précisément de leur suivi sur le territoire du parc. Alors pour cela, je suis en compagnie d'Antonin Villemar, expert chiroptélogue, et de Cyril Rombaud, garde-moniteur sur le massif de l'Aigoual au Parc National. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors en France, on compte 34 espèces de chauves-souris, 27 d'entre elles sont présentes sur le territoire du parc, et l'une des missions des gardes-moniteurs est d'effectuer un comptage des populations durant leur période d'hibernation. Ça s'inscrit dans le cadre d'un protocole national, et donc l'opération se déroule durant la troisième semaine de janvier, dans les grottes, les tunnels, les anciennes mines. Alors, à tous les deux, combien de gîtes sont prospectés chaque hiver sur le territoire du parc et comment sont-ils sélectionnés?
Alors du coup, c'est moi qui vais parler sur ce coup-là. Et on a 46 gîtes qui sont comptés chaque hiver sur le parc national des Cévennes. Et ils sont comptés depuis de nombreuses années. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un réseau de gîtes pour suivre ces chiroptères sur du long terme et pour voir les évolutions des populations, en fait. Donc, c'est pas nécessairement que des gîtes prioritaires ou avec une importance nationale ou régionale, mais c'est des gîtes qu'on peut suivre au moins sur du long terme et dans des conditions les plus sécurisées, c'est-à-dire qu'on va pas sur des sites qui sont trop compliqués d'accès non plus. Voilà. Mais...
Et au niveau de leur localisation et puis du type de gîte, il y a quand même, on essaye de sélectionner, d'avoir un échantillon représentatif quand même de ce qu'on peut trouver sur l'ensemble du territoire.
Oui, en fait, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire du parc et parfois, il y a des sites qu'on rajoute. C'est le cas des tunnels ferroviaires dont on va parler tout à l'heure, pour des raisons en fait, d'importance nationale ou régionale par rapport à certaines espèces de chiroptères.
Très bien. Et est-ce que, à part l'hiver, il y a d'autres saisons justement où ces gîtes sont utilisés par les chauves-souris, autres que pour l'hibernation ?
Oui, complètement. On distingue quatre grandes saisons assez importantes chez les chauves-souris, dont deux qui sont un peu plus essentielles. On vient de parler de l'hibernation. Mais il y a aussi la reproduction un petit peu plus tard, qui intervient à peu près fin mai jusqu'à la fin juillet à peu près. C'est une période assez cruciale parce que les femelles vont se regrouper entre elles dans le même gîte. Ça peut être des colonies mixtes aussi de plusieurs espèces différentes. Et donc elles vont donner naissance à leur juvénile. Elles vont s'en occuper à peu près pendant tout l'été, jusqu'à l'émancipation des jeunes aux alentours de septembre-octobre. Et puis après, effectivement, on a entre l'hiver et l'été, une période qu'on appelle de transit, qui est assez importante aussi, mais c'est les chiroptères vont opérer des déplacements qui peuvent être plus ou moins importants, d'une dizaine de kilomètres, mais ça peut être plusieurs milliers de kilomètres, et là on parle même de migration.
Donc je le disais, donc le suivi est effectué par les gardes-moniteurs, mais en l'occurrence, Antonin, toi tu interviens également aux côtés des agents. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous préciser quelle est ta mission dans ce cadre-là ?
Complètement, moi je suis expert chiroptérologue, c'est mon métier, donc là, j'agis en tant que bénévole aujourd'hui, et j'apporte mon expertise en fait en plus aux gardes-moniteurs. Donc voilà, j'aide au suivi des différents gîtes de façon bénévole et avec très grand plaisir.
et c'est très, très important pour nous, notamment quand on a des problématiques de conservation, quand on a des problématiques de gestion sur des ouvertures, des fermetures de cavités, c'est vraiment important d'avoir des gens extrêmement pointus. Enfin, je pense à d'autres situations où on a eu des mortalités sur des cavités, des choses comme ça. Ben, il vient en appui et pour nous, c'est vraiment crucial, quoi.
Et donc tu viens en appui notamment auprès des collègues du parc, mais plus généralement tu peux intervenir sur toute la France, sur la région Occitanie.
Complètement, moi j'interviens surtout en région Occitanie pour le moment, mais ça peut être des collectivités, communautés de communes, et puis aussi j'accompagne aussi des bureaux d'études plutôt sur l'aspect réglementaire, mais voilà, dans tous les domaines de l'expertise chiroptérologique.
Et donc pour le suivi des populations durant leur période d'hibernation, enfin comment concrètement, avec quelle technique, comment ça fonctionne, comment on repère les chauves-souris, comment on les compte, comment...
Alors Du coup, pour ce qui est des comptages hivernaux, on fait des inventaires en fait à vue. Donc c'est assez simple en fait en soi. Donc on rentre dans les cavités et on cherche dans toutes les zones les infractuosités, les fissures, les cloches où on peut voir des chauves-souris et on les identifie à vue. Alors ça a ses limites, hein. Sur certaines espèces comme notamment les murins de petite taille, bah, ça peut être assez compliqué et parfois on ne va pas jusqu'à l'espèce, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, on arrive au moins jusqu'à l'espèce. Parfois on prend des photos aussi, c'est quand on a besoin de faire des comptages. D'abord, soit on a, quand on a des gros regroupements très très importants, je pense aux nemiotères de Schreber ou aux euriales, où là ça fait des gros essaims et donc du coup bah, pour arriver à compter là-dedans sans déranger, bah, on préfère faire une photo. Et puis après, la photo, on va l'analyser a posteriori sur l'ordinateur et on va compter. On va cocher les chauves-souris qu'on voit. Et sinon, après, quand c'est des plus petits essaims ou des individus isolés, comme c'est souvent le cas, à ce moment-là, ben, on parcourt la cavité et on essaie de regarder un peu partout ce qu'on peut compter.
Donc l'idée, c'est de ne pas trop éclairer, quoi, en fait. Hein,
Alors, c'est ça qui est fondamental, c'est que... éclairer le moins possible, mais quand même suffisamment pour pouvoir voir, et surtout ne passer qu'une seule fois. C'est pour ça qu'il faut bien se coordonner avec à la fois les associations de protection de la nature, mais aussi d'autres usagers des cavités, mais on en parlera tout à l'heure, je pense, par rapport justement à des surdérangements. Parce que déjà, de toute façon, quand on rentre dans une cavité pour compter en hiver, il y a déjà un dérangement. De toute façon, il est plus ou moins important. En général, quand on connaît son sujet et qu'on sait comment faire, eh ben, on essaye de déranger le moins possible. Mais il ne faut pas y revenir deux fois ou trois fois voilà, sur ces cavités-là en hiver.
Pour compléter un peu les techniques d'inventaire, on a aussi une méthode qui est pour le coup très intéressante parce qu'elle est complètement non-invasive pour les chauves-souris. C'est l'inventaire acoustique. Les chauves-souris produisent des ultrasons pour se guider dans la nuit. Et en fait, chaque espèce va avoir une signature acoustique et on est capable d'identifier, d'enregistrer ces sons, ces ultrasons, donc des sons qui sont tellement aigus que l'oreille humaine n'est pas capable de les entendre. Mais donc on a des enregistreurs spéciaux qui sont capables d'enregistrer ces sons-là. Et donc on est capable d'identifier l'espèce, le type d'activité qu'elles vont avoir, sans que les chauves-souris ne s'en rendent compte. Donc c'est la méthode la plus intéressante qui va nous apporter énormément d'informations et qui va permettre de nous faire basculer vers d'autres méthodes pour aller creuser un petit peu plus loin. Par exemple, la capture temporaire des chauves-souris. Donc là, ça va faire intervenir d'autres paramètres qu'on ne peut pas relever à l'acoustique, par exemple les sexes, par exemple, mais les niveaux d'activité sexuelle ou pas. Et ça nous donne vraiment des indications très complémentaires entre les techniques. Mais voilà, l'acoustique n'est pas du tout dérangeante. Par contre, la capture, voilà, ça l'est un peu plus. Et c'est des personnes qui sont formées, possèdent une dérogation, qui ont suivi un long cursus de formation pour mener ces inventaires-là via la capture.
Et en l'occurrence, l'acoustique, ça ne permet pas de dénombrer, de compter. En fait, on reconnaît
non,
l'espèce.
Mais pas ça, tout
voilà,
à fait.
Il faut à l'appui, c'est complémentaire de...
Alors après, on fait les deux parfois. Ouais. C'est ce qu'on fait sur des cavités, notamment de reproduction. Avec Antonin, là, on va sur des sites où il y a de la reproduction de dessins de chauves-souris, donc important. À ce moment-là, on utilise la technique de l'enregistrement pour savoir les espèces. Et derrière, on compte. Ce qui nous permet d'avoir les deux. D'avoir à la fois un dénombrement, et aussi une diversité, en fait.
Et en plus, on va coupler différentes méthodes, c'est-à-dire qu'une fois que le comptage est fini, on va rentrer dans la cavité pour aller observer éventuellement les juvéniles qui seraient restés. On prend une photo et on l'analyse par la suite pour les compter derrière.
Donc je disais tout à l'heure en introduction, donc sur les 34 espèces de chauves-souris, 27 sont présentes sur le territoire du parc. Alors on va pas énumérer toutes les espèces, mais quelles sont les espèces les plus fréquemment rencontrées, que ce soit dans les tunnels ou même pour les habitants qui auraient des chauves-souris dans leur grenier, par exemple.
Mais, je dirais l'espèce la plus importante pour nous en termes de nombre et même de responsabilité au niveau du parc des Cévennes, c'est les rhinolophes, et notamment le grand et le petit rhinolophe, puisque c'est des espèces qui sont en raréfaction, voire en disparition dans certaines régions de France et qui sont encore bien représentées ici sur le territoire des Cévennes, et avec des enjeux importants en termes de conservation, parce qu'elles sont souvent dans du bâti pour se reproduire. Donc pour faire les petits, pour donner naissance aux petits, elles sont souvent dans du bâti.
Et elles sont reconnaissables à quoi ? Par rapport, je ne sais pas, aux pipistrelles,
alors,
par exemple.
Les rhinolophes, c'est vraiment l'image qu'on se fait d'une chauve-souris, c'est-à-dire un individu tête en bas, complètement enveloppé dans ses ailes. On a trois espèces, mais il y en a deux qui se reconnaissent, on va dire, bien. Le petit rhinolophe qui a vraiment la taille, on va dire, d'un pouce, et le grand, la taille d'un poing, donc c'est quand même bien plus important. Et puis on a le rial qui est un peu plus difficile à identifier, qui a un peu la taille intermédiaire entre les deux, mais qui est plutôt cavernicole, donc on le retrouve plus dans les cavités en période estivale. Le petit et le grand rhinolophe, en période estivale, on l'a surtout dans des caves, des greniers, dans des espaces plutôt chauds, en fait, dans des espaces de volume. Voilà.
Il n'y a pas une histoire de nez, oui. Un nez un peu particulier.
Il s'appelle le fer à cheval, le petit et le grand fer à cheval, parce qu'effectivement, la feuille nasale qui sert pour l'écholocation, elle a une forme un petit peu de fer à cheval. Voilà. Donc un nez un peu aplati, avec une forme un petit peu. Et d'ailleurs, au niveau des critères de détermination, souvent, on observe très bien cette feuille nasale, et notamment la lancette qui est devant, pour pouvoir savoir à quelle espèce on a affaire, et notamment par rapport à ces différences entre eurial et grand rhinolophe. C'est un critère qu'on regarde précisément.
Ouais. Et ils hibernent plutôt en petites colonies, en grandes colonies. Enfin, il y a des espèces, j'imagine, c'est variable.
C'est très très variable d'une espèce à l'autre. On va rencontrer des espèces qui vont être plutôt isolées. Par exemple, chez le grand rhinolophe ou le petit rhinolophe, on va souvent rencontrer des individus isolés, mais parfois, dans certaines cavités qui présentent des conditions très favorables, on va avoir des gros regroupements. Donc voilà, c'est vraiment des stratégies qui peuvent être très différentes. Et on a des espèces qui se regroupent en des colonies très très importantes, voire de plusieurs milliers d'individus.
Et pas forcément dans des grandes cavités.
Pas forcément, non. On a l'exemple sur une cavité là sur Romesas, qui est une petite cavité, mais qui accueille plus de 1000 individus, qui a un développement très très faible, hein, je dirais 30-50 mètres grand maximum. Hein, donc c'est assez étonnant. Par contre, certaines espèces affectionnent quand même plutôt des énormes salles, des grandes salles avec du volume. Le miniopter de Schreber aime bien notamment les cloches au sommet des grandes salles. Voilà.
Et donc, nous allons parler plus précisément de l'Aigoile, où il y a une importante colonie de barbastelles. Jusqu'à 100 individus a été dénombrés dans un seul gîte sur un réseau de tunnels ferroviaires. Donc ça, c'était en 2021. Alors, qu'est-ce qu'une barbastelle ?
Ouais, je te laisse parler, Antonin.
Allez, je vais essayer de décrire la barbastelle à la radio. C'est pas si évident. J'invite évidemment les auditeurs à aller voir sur Internet pour se faire une idée. Mais la barbastelle, déjà, c'est une chauve-souris qui est particulièrement appréciée chez les chiroptérologues parce qu'elle a ce côté atypique. C'est une chauve-souris qui est très, très sombre, qui est une petite chauve-souris d'une dizaine de grammes en moyenne. Elle a une face très aplatie, un petit museau aussi aplati et des grandes oreilles très sombres qui se rejoignent à peu près au milieu du front, et ça donne ce côté un petit peu diablotin qui est assez chouette. Et le reste du corps est aussi très sombre, c'est ça qui est vraiment atypique par rapport aux autres espèces de chauve-souris.
Et elle mesure combien en taille à peu près?
C'est moins d'une vingtaine de centimètres d'envergure, c'est assez petit. On n'est pas sur les plus petits modèles, hein, mais on est sur voilà, quand même une chauve-souris de petite taille. Et du coup qui peut avoir aussi sur le pelage dorsal des mèches argentées. C'est assez joli aussi à observer.
Il y a un brushing, quoi.
Et donc, comment a été découvert ce fameux gîte
Alors, l'histoire de ce gîte, elle est assez originale parce que, en fait, en réalité, on avait des informations de la part donc, d'anciens collègues. Je pense notamment, j'ai une pensée toute particulière à Jean Séon, qui nous a quittés depuis pas mal d'années maintenant, mais qui, à l'époque, faisait beaucoup de chauves-souris. C'est lui qui a lancé, en fait, la dynamique de l'étude des chauves-souris sur le parc. Et donc, ils avaient trouvé des colonies de reproduction derrière des volets. Qu'on a de nouveau retrouvé après bien des années, mais on en parlera tout à l'heure. Mais par contre, pas les zones d'hivernage. Ils étaient allés dans ces tunnels ferroviaires, sans doute, mais peut-être pas à la bonne saison, peut-être qu'ils étaient moins exploités à ce moment-là. Et donc, du coup, on avait ces tunnels ferroviaires, et avec Antonin, on en a discuté, et on s'est dit, tiens, ça pourrait valoir le coup quand même d'aller jeter un coup d'œil. On savait qu'il y avait peut-être des barbastelles dans le secteur, ou d'autres espèces. On s'est dit, tiens, les tunnels, ils sont abandonnés depuis longtemps, allons-y voir. Et on a eu des bonnes surprises.
Et du coup, j'imagine que ce même lieu, chaque hiver, donc depuis sa découverte, est suivi. Comment ça évolue ?
Alors, déjà, il est suivi depuis 2019. Donc depuis 2019, on va dans ces tunnels. Au début, on n'était pas sur des gîtes qui étaient suivis par le parc tous les ans, mais on s'était dit que c'était important. Donc on a lancé quand même cette dynamique à la fois à l'échelon associatif, puisqu'on a une association naturaliste sur le secteur qui s'appelle les naturalistes des Cévennes méridionales et qui a pris les choses en main. Et puis après coup, c'est rentré. Vu l'importance du gîte, c'est rentré dans les suivis hivernaux du parc. Au moins pour deux gîtes, donc deux tunnels ferroviaires ou trois tunnels ferroviaires sur l'ensemble des tunnels. Mais c'est un réseau, en fait, qu'il faut imaginer, qui fait, je crois qu'il y a une dizaine de tunnels facilement sur tout le réseau, en fait, ferroviaire. Donc c'est une ligne de chemin de fer qui a été abandonnée depuis au moins 80 ans, je crois, et qui pour certains tunnels sont dans des conditions d'hygrométrie extrême, avec de l'eau qui suinte de partout, une ambiance très froide, et abandonnée depuis très très longtemps. Donc du coup, des conditions qui sont favorables pour certaines espèces, dont la barbastelle.
Et oui, et surtout pour la barbastelle, parce que l'un des tunnels propose des conditions particulièrement extrêmes. Parce que d'une manière générale, les tunnels ferroviaires abandonnés, c'est très favorable aux chauves-souris. Comme l'a dit Cyril, on a des conditions stables en termes de température, particulièrement pour l'hiver, hein, c'est ça qui est très important. L'humidité qui est saturée, mais aussi c'est des endroits calmes, sombres, et pour certains qui font des dizaines, des centaines de mètres. En fait, le plus long fait quasiment fait plus d'un kilomètre, d'ailleurs. Donc la particularité quand même d'un des tunnels, c'est qu'il accueille que la barbastelle. C'est-à-dire que la barbastelle tolère ces conditions très extrêmes. Et c'est assez surprenant parce que ça ne dépasse pas 2 degrés. Il y a certaines parois qui ont carrément gelé dans le tunnel. Et donc la barbastelle est présente en masse, mais il n'y a que elle. C'est assez impressionnant.
On a juste que du givre sur les poils des animaux, quoi. Donc on imagine bien les conditions de froid qu'elle supporte et de ambiance aussi courant d'air, hein, parce que c'est ouvert des deux côtés, donc du coup il y a un courant d'air à l'intérieur. Et quand on fait les comptages, notamment au plein mois de janvier, on a intérêt à être bien couvert, quoi, si on ne veut pas attraper la mort.
Oui, donc c'est un habitat de choix pour cette espèce en particulier.
Complètement, parce que la barbastelle, même si sur les inventaires acoustiques, on la contacte régulièrement quand même, ça reste une espèce qui est peu étudiée et dont la connaissance est assez lacunaire encore sur les gîtes. Mais on va dire à l'échelle Grand Sud, hein, pas qu'à l'échelle du parc. Donc trouver un gîte, même un réseau de gîtes là, de tunnels qui accueille plus de 150-200 individus au total, c'est exceptionnel. Alors on n'est pas du tout sur les mêmes effectifs que d'autres espèces comme le myniopter qui atteint plusieurs milliers. Mais voilà, en l'état des connaissances actuellement, c'est exceptionnel. Et même dans des noyaux de population un peu plus dans le centre et dans le nord de la France, c'est des gîtes qui sont assez importants. Donc voilà, yeah. c'est vraiment à valoriser, en fait, ce type de connaissances.
Ah oui, alors il faut préciser que la barbastelle d'Europe est quand même une chauve-souris plutôt du nord, en fait, plutôt qu'une espèce qu'on peut retrouver jusqu'assez haut en latitude, et donc du coup qui est plutôt habituée à la fraîcheur qu'à la chaleur méditerranéenne,
par exemple. C'est pour ça qu'elle va de préférence dans ces tunnels.
Alors, pas forcément. En tout cas, c'est aussi les milieux autour qui sont intéressants, tous les milieux forestiers. On a la zone du cœur du parc qui est pas très loin, avec des très belles châtaigneraies. En été, par exemple, on la retrouve un peu moins sur le littoral, par exemple, la barbastelle. C'est vraiment une espèce qui est forestière, vraiment, avant tout, qui utilise des boisements assez matures, avec des vieux arbres, en dehors des tunnels. En fait, l'été, elle est plutôt arboricole. Elle se loge sous des écorces décollées, par exemple. Et puis, on peut aussi la retrouver dans des milieux de bocage, par exemple, quand les corridors écologiques sont en bon état de conservation. Et du coup, ça reste aussi une espèce indicatrice de la qualité des milieux aussi.
Ouais. C'est une espèce parapluie. C'est parmi ces espèces qui nous démontrent qu'on a une forêt intéressante et mature dans les Cévennes, et notamment avec des portions de vieilles forêts ou de continuité forestière.
Et du coup, est-ce qu'il y a plus, pour le parc, pour cette espèce en particulier, plus d'enjeux de conservation que pour d'autres, ou pas du tout? Les 27 espèces, il y a un fort enjeu de conservation.
Ah oui, je dirais oui, parce qu'en fait, à l'échelle Languedoc-Roussillon et même Occitanie, on n'a aucune autre connaissance de gîtes aussi important. Donc en fait, le parc a une responsabilité, effectivement, de conservation de cette population-là, qui est certainement d'enjeu, je dirais, régional, vu les effectifs. Et on a d'autres espèces, hein, comme le rhinolophorial, par exemple.
Et en l'occurrence, ce tunnel, enfin, il n'y a pas de projet. Enfin, on est sûr que son habitat, on parlera plus généralement des projets d'aménagement, mais en l'occurrence, ces habitats-là, il n'y a pas de, il y a aucun risque.
Là, on est, je peux pas vous dire qu'il n'y a pas de risque parce que c'est pas vrai. Ça dépend des tunnels, en fait, on va dire. Il y a des tunnels actuellement où on est sûr que ça va être stable pendant longtemps. C'est le cas du tunnel d'Alzon qui est suivi là où on a dit qu'il y avait la centaine de barres Bastel. Mais par contre, il y a d'autres tunnels, notamment sur la commune de Sumène, où là, il y a des projets qui sont à moyen terme, au moins à moyen terme d'aménagement. Ouais. Mais on en parlera, ouais.
On peut en parler. Quel est le travail des agents quand il y a connaissance de ces populations dans les tunnels et que potentiellement, il pourrait y avoir un projet d'aménagement, enfin voilà, comment ça se passe?
Alors déjà, on s'appuie justement sur des personnes ressources comme Antonin ou comme d'autres chiroptérologues pour avoir vraiment les éléments, parce que nous, on a les éléments en hiver, mais par exemple, c'est ce qu'on disait, c'est que l'importance des tunnels ferroviaires pour le swarming, c'est-à-dire le moment de la reproduction où les mâles et les femelles s'accouplent, pas trop le savoir sans avoir les outils de décolocation, donc les enregistrements que fait Antonin, et on s'est rendu compte que ces tunnels étaient importants à la fois en hibernation mais aussi en automne pour la reproduction. Ça veut dire que c'est sur une période qui est quand même relativement longue. Si on regarde bien, les tunnels, ils sont importants de quasiment de la fin de l'été jusqu'à la fin de l'hiver. Après, c'est vrai qu'en période estivale et printanière, il n'y a pas de reproduction dans ces tunnels-là. Donc, il n'y a pas d'enjeux importants à ces périodes-là. Mais les aménagements, les types d'aménagements qui sont prévus sur ces tunnels, c'est pour faire ce qu'on appelle des voies vertes, donc des tunnels qui vont être aménagés pour pouvoir circuler dedans en vélo, donc qui sont éclairés, parce qu'on est obligé d'éclairer les tunnels pour passer en vélo. Et dès le moment où on a ce type d'aménagement-là, on va faire fuir en fait les chiroptères. Alors pour préciser les choses, il y a eu des tentatives d'aménagement, c'est-à-dire de faire une partie, un bardage en fait pour isoler en fait les chauves-souris sur une partie du tunnel et rendre accessible l'autre partie. Ça a été fait dans la Nièvre notamment avec des gros fonds financiers. Hein. Je crois qu'ils ont dépensé plus d'1 million d'euros pour faire l'aménagement et ils sont passés de 200 bêtes à zéro malgré l'aménagement. Donc on s'est rendu compte que même avec un aménagement comme ça qui isole pourtant où la lumière rentre pas, etc. Les conditions en fait, d'hygrométrie, de température, changent.
Ça perturbe.
Et les chauves-souris n'y viennent plus, du coup. Voilà. Donc, il y a vraiment un souci à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a certaines conditions, certains gîtes où l'aménagement du gîte est préjudiciable de façon un peu absolue. Dans d'autres situations, on peut trouver des solutions.
Oui, on peut parler notamment de la pratique de la spéléologie, qu'elle soit professionnelle ou de loisir. C'est un vrai sujet avec la pratique et la cohabitation avec la biodiversité souterraine. C'est pas incompatible du tout. C'est juste bien de faire de la concertation, d'alerter en amont, de bien connaître les sites, et on peut aménager certaines choses pour à la fois préserver les chauves-souris, dédier des périodes où il ne faut pas aller dans la cavité, des périodes sensibles, aménager l'entrée des cavités, sensibiliser, valoriser aussi ces sites-là, et donc ça fonctionne. Il y a plein d'exemples qui fonctionnent, mais dans certains cas de figure, ça l'est pas vraiment. Voilà. Le cas de la voie verte, là, il est un peu compliqué.
Alors du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des tunnels qui étaient plus ou moins importants. Donc il y a des tunnels où il y a vraiment de l'hivernage important. Et puis d'autres où il y a peu d'hivernage, soit parce qu'ils sont déjà accessibles, il y a déjà des véhicules qui les traversent, il y a déjà de la fréquentation, ou alors ils sont dans des moins bonnes conditions pour les chauves-souris. Et donc du coup, le tout est de faire un porté à connaissance auprès des communes, et ça c'est aussi notre boulot à nous, d'aller auprès des communes et de leur dire, voilà, bon, vous avez tel tunnel, là vraiment il y a des enjeux énormes, ça va être compliqué de trouver des solutions. Par contre, celui-là, non, il n'y a pas d'enjeu énorme. Pourquoi pas le transformer en voie verte, voilà. Et éventuellement, essayer de trouver des solutions de contournement pour les tunnels qui sont les avec le plus d'enjeux, quoi, en fait.
Et les collectivités sont réceptives, justement ?
On vous dira ça bientôt.
Il y en a une qui a été très réceptive. C'est Alzon qui a mené une fermeture d'un des tunnels. Voilà, ça protège à la fois les chauves-souris, mais aussi le patrimoine de l'ouvrage d'art qui est remarquable aussi, en fait.
Et des perles des cavernes aussi qui sont présentes et qui sont connues depuis longtemps par les spéléos.
Et à part des aménagements touristiques, il y aurait d'autres types d'aménagements qui affecteraient les tunnels ou pas?
Là, sur ces tunnels-là, je pense pas. Il y a certains tunnels qui peuvent être aménagés pour faire des champignonnières. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas de projet à ce niveau-là sur ces tunnels-là. A priori, pour l'instant, en tout cas, sur ce réseau de tunnels donc du sud du parc, c'est surtout pour de l'aménagement en voie verte qu'il y a des projets, quoi.
Et je voulais juste compléter sur le swarming, t'en as parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est un peu particulier comme phénomène parce qu'en journée, il y a peu d'individus dans les tunnels. Il peut y avoir quelques individus isolés à l'intérieur du tunnel, mais en fait, l'activité va augmenter de façon très très importante en cours de nuit. En fait, c'est des individus qui vont venir de populations assez éloignées. Elles peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres dans la nuit. Effectivement, pour se retrouver en cours de nuit, que ce soit mâle et femelle, pour s'accoupler à l'intérieur, on observe énormément d'interactions sociales, des poursuites entre les mâles et femelles, des cris sociaux. Et donc ça permet un brassage génétique des populations, éviter qu'elles s'isolent aussi génétiquement. Et donc ça, c'est assez difficile à valoriser en termes d'enjeux, parce qu'effectivement, en phase diurne, il se passe rien dans ces tunnels. Mais par contre, en phase nocturne, il y a énormément d'activités. Voilà. Et pas que pour la barbastelle, justement. C'est la barbastelle qui est majoritaire, mais il y a d'autres espèces qui fréquentent ces tunnels-là la nuit aussi. Hein.
Finalement, du coup, l'enregistrement acoustique permet d'apporter une preuve.
Complètement, et c'est des activités qui sont jugées très très fortes sur ces tunnels-là. C'est assez remarquable, et on le couple à la capture. Voilà, une fois qu'on a cette information sur l'acoustique, on peut basculer sur la capture et aller voir si effectivement on a des mâles, des femelles, quel est le sexe ratio, l'activité sexuelle des mâles, etc. Voilà.
Dernière question, d'équiper des chauves-souris de petites balises, enfin, ça se fait ou...
Complètement. Ouais. Alors, il y a plusieurs techniques qui existent. Ce qu'on fait le plus aujourd'hui, c'est équiper les chauves-souris de petits émetteurs VHF, Very High Frequency. Et ça a une durée de vie d'environ une semaine et demie. Et le but, c'est de trouver des gîtes. Donc, l'objectif, c'est d'équiper la bête, de la relâcher. Le lendemain ou dans la nuit, elle va retourner à son gîte. Et effectivement, le lendemain, avec des antennes, on va essayer de localiser ces gîtes-là. Donc, ça, c'est très efficace pour justement trouver des nouveaux gîtes, pour de la prospection. Derrière, l'idée, c'est d'enclencher sur des mesures de protection, que ça soit en milieu forestier, de la protection, de la gestion forestière, mais aussi ça peut être des gîtes bâtis. Donc là, rencontrer les propriétaires, etc., indiquer la présence de la colonie. Voilà, donc ça, c'est ce qui se fait le plus en termes d'équipement. On peut aller un peu plus loin sur des bêtes qui sont assez imposantes, assez grosses, avec un équipement GPS, parce que c'est des équipements qui sont un peu lourds. On essaie de se limiter à 5% du poids de la bête. Donc en fait, les émetteurs les plus légers font 0,2, 0,3 grammes. Et les plus lourds font 1 gramme, et toutes les espèces ne sont pas capables de supporter 1 gramme d'équipement. Voilà.
Et ça s'est fait, Cyril, justement, pour trouver des gîtes sur le territoire du parc ?
Alors, pas pour la barbastelle, mais par contre, ça a été fait pour d'autres espèces, et en particulier sur la grande noctule. On a tout un programme. Bon, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas partie du groupe Chiroptère, mais mes collègues, en tout cas, font du suivi sur la grande noctule, à partir, justement, de ces balises, et ça leur a permis de découvrir des choses assez extraordinaires, comme par exemple, on a des gîtes qui sont sur le mont Aigoual, et les bêtes, dans la nuit, elles vont sur un autre gîte, mais sur le littoral.
D'accord.
Donc elles font 60 km et hop, elles vont aller dans un platane au bord de la mer, quoi.
D'accord.
C'est des chauves-souris qui sont capables de voler très haut. On a des altitudes de vol qui peuvent être comprises entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. Donc pour une chauve-souris, c'est assez exceptionnel, et des vitesses de vol entre 68 et 70 km/h. Donc effectivement, elles parcourent énormément de kilomètres en une seule nuit. Et les records sont même bien plus hauts. Hein. Ça peut aller jusqu'à 150 km dans une seule nuit. Et c'est notamment elle qui a le record de migration. Ça a été enregistré très récemment. Entre l'automne et l'été, elle a parcouru plus de 2000 km en plusieurs fois, évidemment. Mais voilà, elle est capable de voler longtemps, haut et loin.
Et elle est grosse en plus. Donc du coup, elle peut supporter ses émetteurs GPS. Ça, c'est intéressant. Pour reparler des Barbastel, donc on a trouvé a posteriori, pour finir la petite histoire que j'avais commencé tout à l'heure, après avoir trouvé ces tunnels ferroviaires, donc on est revenu vers les anciens gares, notamment mon collègue Bernard Ricot, que j'ai remplacé et qui est encore très actif au niveau naturaliste, et qui m'a dit « Ah mais oui, mais il y avait... » nous, on avait trouvé une colonie de reproduction sur un moulin. Et on est retourné voir ce moulin, et en fait, la colonie y est toujours. Et elle est très importante, puisque je crois qu'on a vu 100 individus sur cette colonie. Et là aussi, bah, on va s'efforcer. Bon, ça, c'est tout nouveau, hein, c'est l'année dernière qu'on l'a eu. Et on va s'efforcer de la suivre pour voir un peu l'évolution des populations, d'autant qu'elle est derrière des volets, dans une grande bâtisse qui n'est pas habitée toute l'année, mais où il y a quand même un peu d'activité. Le propriétaire, de temps en temps, il fait des fêtes, de temps en temps, il invite des gens, de temps en temps, il y a des gens qui viennent à habiter. Et donc, essayer de voir s'il peut conserver les volets ouverts, voilà, à la bonne période, quoi. Voilà.
C'est simple, en fait. voilà, des choses pas très compliquées à faire, mais ça peut préserver une colonie.
Parfois, en fait... une action peut tout foutre en l'air et une action peut tout régler en juste ouvrir ou fermer un volet.
Et la plupart du temps, les gens ne savent même pas qu'ils ont des chauves-souris chez eux. Elles sont souvent très discrètes et pas forcément en quantité. Donc voilà, là, le volet, il était peut-être ouvert depuis un moment, en fait.
C'est ça,
un volet qui donne sur des escaliers, donc pas forcément très... Enfin, il n'y a pas forcément besoin de les ouvrir ou les fermer tout le temps. Donc en plus, ça nous va très très bien s'ils les laissent... ouvert ou fermé, comme on le voit toute l'année.
Sur ces mots, je vous propose de terminer cette émission et on se retrouve très bientôt. Bye bye.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. Séquence Parc sur le 107 FM.